Cette page d'évangile nous montre comment Jésus manifeste sa splendeur, sa gloire, sa divinité, le rayonnement de son amour. La gloire, en hébreu, c'est le poids, le rayonnement de l'amour. Le visage de Jésus est beau. Frères et sœurs, est-ce que nous avons été saisis, une fois ou l'autre, par la beauté du mystère du Christ? Si nous sommes là, sans doute, d'une façon ou d'une autre. Et à qui Jésus a-t-il choisi de manifester la beauté de son être, le rayonnement de son être, sa gloire divine? À qui? Qui sont les trois? Vous avez entendu? Comment ils s'appellent? Vous voulez qu'on relise l'évangile? Pierre, Jacques et Jean. Pierre, Jacques et Jean, qui font partie de trois parmi les quatre premiers que Jésus a appelés à les suivre. Et où est-ce qu'on va retrouver Pierre, Jacques et Jean? Vous savez, dans deux endroits, on les retrouve à l'agonie de Jésus. Pierre, Jacques et Jean seront avec lui. Et Jésus donc les prépare à ce moment terrible de voir Jésus agonisant. Voilà. Mais on les retrouve aussi à un autre endroit que j'ai découvert ces jours-ci, figurez-vous. Saint Paul, après sa conversion, raconte qu'il va à Jérusalem pour rencontrer les responsables de l'Église, pour être sûr que, voilà, il est en pleine communion avec eux et qu'il peut effectivement aller évangéliser ceux qui ne sont pas juifs, les non-circoncis. Et dans la lettre aux Galates, Paul dit qu'il a rencontré les colonnes de l'Église qui sont Pierre, Jacques et Jean. Et donc c'est très intéressant de comprendre que Jésus a choisi ces trois-là qui seront les responsables de l'Église. Pierre, évidemment, premier évêque de Rome, qui est une autorité parmi les douze. Jacques, le premier à donner sa vie pour le Seigneur, à mourir martyr. Et Jean, l'apôtre bien-aimé, qui sera à Éphèse avec Marie. Donc Jésus a manifesté sa gloire à ces trois hommes qui vont devenir les colonnes principales de l'Église primitive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus se manifeste pour que ces hommes reçoivent plus profond d'eux-mêmes la marque, le souvenir de la gloire de Dieu, dans lequel ils vont puiser l'énergie, la force, la grâce pour toute leur mission. Et quand on regarde l'histoire de l'Église, on réalise que toutes les grandes figures de l'Église ont fait une expérience contemplative du mystère du Christ. J'en ai listé quelques-unes. Saint Paul, je l'évoquais à l'instant, sur le chemin de Damas, il rencontre le Christ mort et ressuscité. Sainte Thérèse d'Avila, elle vivait la vie médiocre d'une religieuse espagnole à Avila, et un jour, en voyant une statue du Christ à la colonne dans sa passion, elle a été saisie par le mystère du Christ dans sa passion. Saint Ignace de Loyola racontera la contemplation du Christ. Saint François d'Assise, il raconte qu'en fait, il a découvert le Christ sous les traits d'un lépreux qu'il avait embrassé. Plus près de nous, Pauline Jaricot, où le corps repose ici, qui a été saisie par le mystère de l'Eucharistie. À 23 ans, elle a écrit un traité sur l'Eucharistie pour rappeler aux prêtres et aux fidèles l'importance de l'Eucharistie parce que le Christ se manifeste et se rend présent. Elle avait été saisie à 23 ans et elle avait une petite idée derrière la tête, c'était d'aider les prêtres à mieux célébrer la messe. Elle avait un tout petit peu d'audace. Cette audace, elle l'avait puisée dans sa contemplation de l'Eucharistie. Antoine Chevrier, grande figure lyonnaise aussi, qui en 1856 a contemplé dans une crèche la nuit de Noël Jésus et qui a été saisi par le choix que le Fils éternel de Dieu a fait de devenir pauvre. Et c'était le ressort pour toute son activité missionnaire ensuite. On pourra multiplier les exemples, plus proche de nous et plus jeune, il y a un certain Carlo Acutis qui, à partir de 7 ans, a été saisi lors de sa première communion par la messe, la présence de Jésus pendant la messe. Et alors que sa famille n'était pas pratiquante, il a décidé d'aller à la messe tous les jours. Et il a cassé les pieds à sa famille pour faire une exposition sur tous les miracles eucharistiques. Quand il est mort à 14 ans, il avait fait une exposition qui circule encore dans le monde entier aujourd'hui. Il avait été saisi. Et donc nous comprenons, frères et sœurs, que la contemplation du mystère du Christ a un rôle, un rayonnement, un impact énorme si nous acceptons d'entrer dans la contemplation du mystère du Christ. Alors cela transforme notre vie parce que cela purifie nos cœurs. Vous savez, il y a souvent beaucoup de doutes, de peurs, d'incompréhensions par rapport au mystère de Dieu, et quand on est saisi par le Christ, alors tout cela tombe. Souvent d'ailleurs il y a une grâce de larmes qui est donnée, qui n'est pas une grâce de tristesse, mais le cœur est saisi par la présence de Jésus, et ces larmes viennent purifier nos cœurs de tout ce qui, jusque-là, n'était pas complètement ouverture, accueil du mystère de Jésus et de son amour pour nous et de sa miséricorde. Voilà, frères et sœurs, c'est de cette contemplation que jaillissent l'amour, la créativité missionnaire, l'élan pour le service des uns et des autres, etc. Et donc l'Église n'a pas tant besoin de gens actifs, de militants, de gens créatifs, organisateurs et autres. L'Église a besoin de contemplatifs dans le monde, d'hommes et de femmes, vous et moi, qui se laissent saisir par la beauté du mystère de Jésus. Voilà. Et qui puiseront là l'énergie pour tout ce qu'ils auront à faire, habité par le Christ. Alors, frères et sœurs, je vous propose aujourd'hui, dans ce début de carême, de demander la grâce de la contemplation. Demandons la grâce de la contemplation. La contemplation est une grâce, c'est un don de Dieu. On ne peut pas la fabriquer nous-mêmes, ce n'est pas le fruit de nos efforts. C'est d'abord un don de Dieu qu'il nous faut demander. Mais c'est un don de Dieu qui suppose notre disponibilité et notre attention. La philosophe Simone Veil disait que la clé spirituelle pour entrer dans la prière, dans la foi, c'est l'attention, être capable d'être attentif. Nous sommes souvent, vous et moi, en tout cas moi je le suis beaucoup, peut-être vous aussi, dispersés par mille projets, mille idées, mille activités, et donc nous avons un trouble de l'attention. Il nous faut demander la guérison de ce trouble de l'attention pour pouvoir accueillir ce qui nous est donné par le Christ. Et sainte Thérèse d'Avila, sainte Ignace de Loyola et d'autres disent que si nous voulons contempler le mystère du Christ, il nous faut passer par son humanité. Parce que Dieu s'est fait homme, et c'est la porte d'entrée pour accueillir le mystère de Dieu. Et donc ça consiste à regarder ce que Jésus fait, où il est, ce qu'il dit, pourquoi il le dit, comment il le dit. Et c'est d'ailleurs le chemin de carême que nous nous proposons, d'entrer dans des contemplations d'évangile ensemble. Toutes les semaines, il y a quelques pistes données avec un podcast, un enregistrement qu'on trouve sur le site internet de la paroisse pour nous aider à rentrer dans la contemplation du mystère du Christ. Nous allons avoir des textes magnifiques les dimanches qui viennent sur la rencontre de Jésus avec la Samaritaine, la guérison par Jésus de l'aveugle-né, la résurrection de Lazare. Ce sont des textes où Jésus se donne à contempler. Voilà. Prenons le temps, frères et sœurs, prenons le temps d'entrer dans la contemplation. Et donc nous ferons en regardant ce que Jésus fait, ce qu'il dit, comment il le fait, où il est, de façon très simple. Et nous allons utiliser notre imagination, voilà, pour entrer dans la contemplation du Christ. Regardons sa délicatesse, regardons sa charité, regardons, voilà. Les textes d'évangile sont d'une grande richesse. Et même si on est des vieux routards, en fait, cette contemplation n'est jamais épuisée. On n'a jamais fait le tour de Jésus, pour faire court. Voilà. Il nous faut sans cesse revenir et nous émerveiller. Et le Seigneur va nous enseigner des choses nouvelles sur son mystère. Alors, il y a quand même quelques obstacles possibles. Le premier obstacle, je l'ai évoqué, c'est que nous n'avons pas le temps. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas le temps? Parce que nous avons mis des choses avant l'essentiel. En langage biblique, ça s'appelle des idoles. Et donc, regardons dans notre agenda ces jours-ci ce qu'on pourrait retirer pour avoir du temps. Pour avoir du temps. La maladie d'aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas le temps. Voilà, je rencontre des couples de fiancés qui n'ont plus le temps de se parler. Ils n'ont pas encore d'enfants. Alors, quand ils vont avoir des enfants, ils n'ont plus le temps du tout. Et bon. Et donc, c'est la maladie du siècle. On n'a plus de temps parce qu'on passe notre temps à courir. Voilà, vous et moi. Alors, on va dégager de notre agenda du temps. Non seulement, j'allais dire, en surface, c'est-à-dire d'avoir des minutes disponibles, mais aussi pour qu'on puisse arriver dans ce temps de contemplation. On se donne une demi-heure, on se pose. Bon. Pas complètement stressé par la course précédente. Vous voyez, si vous arrivez avec des tas d'agitation intérieure, vous ne pourrez pas rentrer dans la contemplation. Et donc, on demande la grâce de cœur apaisé. Voilà. Peut-être qu'il faut qu'on fasse aussi du ménage dans nos priorités. S'il y a des choses qui nous préoccupent, peut-être qu'il faut ou qu'on les fasse, ou qu'on les confie à Dieu, en disant, il y a des trucs que je ne peux pas régler aujourd'hui. Seigneur, tu t'en occupes, moi je vais m'occuper de toi. Vous voyez ? Bon. Alors, il peut y avoir aussi d'autres types d'obstacles qui sont plus difficiles, qui sont des obstacles liés à des situations douloureuses dans lesquelles nous pouvons nous trouver. Si vous êtes sur un lit d'hôpital et que vous avez mal, vous ne pouvez pas faire une belle contemplation libre. Voilà. Et donc, vous êtes dans un autre état, situation, objectif, que vous n'avez pas choisi, difficile, douloureuse, un deuil, une maladie, un souci grave. Bon, eh bien, vous demandez au Christ de comprendre quel mystère de sa vie peut vous éclairer. Je me souviens, dans un deuil extrêmement douloureux d'un de mes frères, j'ai reçu comme certitude que le Christ, en agonie à Gethsémani, était avec nous. Et ma contemplation, si c'en était une, c'était simplement d'accueillir Jésus qui souffrait avec nous. Voyez. Et donc le Christ nous rejoint dans toutes nos situations, y compris celles qui sont douloureuses et qu'on n'a pas choisies. Voilà, frères et sœurs, et puis l'obstacle de fond, nous le savons bien, à la contemplation, c'est nos propres péchés. Voilà. Jésus dit dans les Béatitudes, « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les cœurs purs. » Voilà. Alors, si on n'arrive pas à contempler, on demande à l'Esprit-Saint qui nous montre quels sont les obstacles en nous que nous pouvons mettre, notre agitation, notre idolâtrie, des choses qui sont futiles et qui nous encombrent. Et puis, peut-être qu'il y a des péchés que nous pouvons aller confesser. On est tous invités à aller recevoir le sacrement du pardon, au moins une fois pendant le temps du carême. Voilà, il y a des prêtres disponibles presque tous les jours ici, à Saint-Bonaventure, à Fourvière et ailleurs. Voilà, demandons la grâce d'un cœur pur, d'un cœur libre. Voilà, Seigneur Jésus, nous te rendons grâce. Comme tu t'es manifesté à Pierre, Jacques et Jean, en leur manifestant le rayonnement ineffable de ton amour, tu veux manifester à chacun d'entre nous aussi le rayonnement ineffable de ton amour, pour que nous puissions recevoir dans la contemplation de ta beauté, la source de notre joie, la source de notre charité, la source d'un élan nouveau pour servir là où Dieu nous a plantés. Seigneur Jésus, nous te bénissons.